Alors, ce matin, nous allons continuer une série de prédications sur l'épître de Jacques. Mais en discutant avec vous ce matin, j'ai réalisé qu'en fait, vous avez eu une longue interruption et peut-être vous avez un petit peu oublié ce qui avait été apporté dans le début de cette prédication. Alors ce matin, nous allons aborder un sujet très pratique qui nous concerne tous, la tentation et comment la surmonter. Mais auparavant, quelques rappels concernant l'auteur de cette épître, qui sont les destinataires, quelle était l'intention de l'auteur, et ce que nous avons vu dans les premières prédications sur le début du chapitre 1 de l'épître de Jacques. Alors, tout d'abord, l'auteur de l'épître de Jacques est traditionnellement identifié à Jacques, le frère de Jésus. Les destinataires de cette épître sont les 12 tribus les 12 tribus dispersées parmi les nations, donc ce qui fait référence aux Juifs aux chrétiens plutôt d'origine juive qui étaient dispersés, enfin qui vivaient en dehors de la Palestine. L'intention... Alors, pardon. Si je ne veux pas être gêné... Bon, j'espère que ça va aller. L'intention de Jacques, en écrivant cette épître, c'est de fournir des conseils pratiques sur la manière de vivre une vie chrétienne authentique et de surmonter les épreuves et les tentations qui peuvent survenir au long de cette vie. Jacques voulait aussi encourager ses lecteurs à mettre leur foi en action et à démontrer de façon pratique leur confiance en Dieu par des œuvres concrètes. Et donc, voyons un petit peu ce que nous avions vu dans les messages précédents. Jacques commence son épître en encourageant ses destinataires à se réjouir des épreuves, car chaque épreuve peut les conduire à développer leur persévérance et ce qui devrait les qualifier pleinement pour cette vie chrétienne sur terre et la vie éternelle avec Christ. Il les encourage ensuite à demander la sagesse et à la demander avec foi. Et ensuite, il les met en garde contre deux tentations. D'abord, la tentation du découragement pour les frères et sœurs de conditions humbles, et aussi la tentation de l'orgueil pour ceux qui sont riches et puissants. Et enfin, il élargit son propos en encourageant à tenir bon face à la tentation, et il leur rappelle la promesse du Seigneur de donner la couronne de vie à ceux qu'il aime. Donc, je vous invite maintenant à lire le passage qui sera le sujet de la méditation d'aujourd'hui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie, et par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Alors, le début du chapitre 1 évoque les épreuves au verset 1 et 2, et puis ensuite les tentations au verset 12 à 14. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer les épreuves des tentations? Eh bien, les épreuves sont souvent des situations difficiles ou des défis que Dieu permet dans la vie d'un croyant pour tester et renforcer sa foi. Elles sont considérées comme des opportunités de croissance spirituelle et de développement de la persévérance. En revanche, les tentations sont des incitations à pécher, qui ne viennent pas de Dieu, mais de nos désirs propres, le désir propre de chaque individu. Les épreuves peuvent être le contexte dans lequel vont naître les tentations, comme celui, par exemple, d'essayer d'échapper à la situation difficile que constitue l'épreuve d'une façon qui soit contraire à la volonté de Dieu. Prenons un exemple concret. Imaginons une personne qui perd son travail et n'en retrouve pas pendant une longue période, tant et si bien qu'elle arrive en fin de droit. Cette personne vit une sérieuse épreuve. La tentation, ce serait de se décourager et de tomber dans la dépression ou dans la révolte contre Dieu. La tentation, ce pourrait être aussi l'idée de voler pour survenir à ses besoins ou même répondre à ses désirs inassouvis. Donc, la tentation peut naître au milieu de l'épreuve, mais elle peut également naître dans des situations beaucoup plus favorables qu'on ne qualifierait pas d'épreuve. Par exemple, quelques versets auparavant, Jacques nous a rappelé la tentation pour le riche de tomber dans l'orgueil. Donc on voit que la tentation peut aussi venir dans de telles situations. Maintenant, venons-en aux origines de la tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Jacques l'affirme clairement, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de nos tentations. En effet, Dieu est saint, il ne peut pas être tenté par le mal. Dieu est bon et il ne peut tenter lui-même personne. La tentation a donc d'autres origines. Et l'origine de la tentation, c'est nos propres désirs, nous dit Jacques au verset 14. Les désirs ne sont pas problématiques en eux-mêmes, mais lorsque ces désirs nous entraînent à choisir des chemins contraires à la volonté de Dieu, eh bien, ils sont une source de tentation. Prenons quelques exemples pour être concrets. Le désir sexuel est une création divine, c'est un don de Dieu pour la bénédiction du couple. Mais lorsque ce désir s'enflamme dans un cadre qui n'est pas celui voulu par Dieu pour l'épanouissement de la sexualité, c'est-à-dire dans le cadre du couple uni par les liens du mariage, eh bien, il constitue une tentation. Les liens du mariage sont décrits dans Genèse 2, 24, je vous rappelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Ils seront une seule chair, nous dit la traduction Second. Ce verset décrit bien le mouvement relationnel qui conduit à la formation d'un couple selon Dieu. Il y a d'abord l'émancipation par rapport aux parents, l'attachement au conjoint, et le fait de devenir un, l'union du couple, qui inclut l'union sexuelle. Ce mouvement est décrit ici du point de vue de l'homme, du mari, mais on peut considérer qu'il s'agit du même mouvement pour l'épouse. Donc, premier exemple, l'exemple du désir sexuel. Prenons un autre désir, le désir et le plaisir de manger, qui sont tout aussi naturels. Imaginez, voilà, c'est un don de Dieu pour faciliter l'alimentation plusieurs fois par jour, parce que s'il n'y avait pas ce plaisir de manger, ben, ça deviendrait vite une corvée. Mais ce désir peut aussi nous conduire à nous nourrir de choses malsaines, à manger trop, en trop grande quantité, ou alors, au contraire, à nous priver de nourriture pour jouir d'un sentiment de contrôle sur nos appétits ou sur notre silhouette. Ces désirs, contraires au plan de Dieu, eh bien, constituent des tentations. Un dernier exemple, le besoin de sécurité et le désir d'un certain contrôle sur le cours de nos vies, cela aussi, c'est légitime. Mais si nous choisissons de baser notre sécurité sur l'accumulation de richesses, en nous fermant aux besoins des autres, eh bien, là, nous sortons du plan de Dieu pour notre sécurité et pour notre gestion des richesses matérielles. Et un dernier exemple, le désir d'être mis en valeur, d'être apprécié. Là aussi, c'est probablement une facette de la nature relationnelle que Dieu a donnée à l'être humain. Mais ce désir peut nous conduire à rechercher par-dessus tout l'approbation et l'admiration de nos semblables, alors que c'est l'approbation de Dieu qui devrait être au centre de notre aspiration. Et là, c'est clairement une tentation. Une autre façon de répondre à ce besoin légitime, c'est de chercher l'auto-valorisation au détriment des autres et à nous croire supérieurs à eux, à les juger, alors que la Bible nous montre clairement que nous sommes tous pécheurs, on l'a chanté ce matin, nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et la Bible nous invite à considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et ainsi, on pourrait encore multiplier les exemples. Alors, comment opère la tentation et quelles peuvent être les conséquences funestes de la tentation? Au verset 15. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à un plein développement, a pour fruit la mort. Le verset 15 nous montre que la tentation peut conduire au péché, c'est-à-dire la désobéissance à la volonté clairement exprimée de Dieu, et ce péché, lorsqu'il se développe pleinement, eh bien, il peut conduire à la mort. Il a pour fruit la mort, nous dit Jacques. Alors, la mort. La mort peut être la mort physique. Nous avons tous en tête des circonstances dans lesquelles la tentation à laquelle on succombe peut conduire à la mort physique. Par exemple, l'adultère tué par un mari jaloux, ou le drogué qui meurt d'une overdose, ou l'alcoolique qui meurt d'une cirrhose du foie. Ou alors, vous avez peut-être vu ça dans certains films, celui qui perd la vie en préférant s'agripper à son trésor qui l'entraîne vers le fond plutôt que de saisir la main tendue par celui qui veut le sauver et le sortir de l'eau où il se noie. Voilà, il peut y avoir des circonstances où succomber à la tentation nous conduit à la mort, mais vous avez aussi en tête des situations où le péché n'a pas pour fruit la mort physique, tout au moins pas de façon évidente. La mort dont il s'agit dans ce verset, la mort qui est le fruit systématique du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Dieu est un Dieu saint, parfait, qui ne peut tolérer aucun mal en sa présence. Le péché, c'est le choix de se révolter contre le plan parfait de Dieu pour suivre nos propres voies, pour inventer nos propres solutions. Et toutes les mauvaises actions qui découlent de ce choix. La mort spirituelle peut être temporaire sur cette terre jusqu'à ce que nous la reconnaissions et que nous choisissions de nous tourner vers Dieu pour recevoir la réconciliation avec lui qu'il nous offre gratuitement en Jésus-Christ et choisir de suivre Jésus. Mais la mort spirituelle peut être également définitive, éternelle. Lorsque nous quittons cette terre sans avoir vécu cette réconciliation avec Dieu, alors nous sommes séparés. Nous sommes séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Quelles sont les étapes qui peuvent nous conduire à cette fin funeste, la mort ? Eh bien, tout d'abord, le désir illégitime se présente. Nous sommes dans une situation de manque et nous imaginons répondre à ce manque d'une façon qui, nous le savons, est contraire à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Nous sommes attirés, nous dit Jacques. Ensuite, ce désir illégitime nous entraîne. Il est de plus en plus fort. Il nous déborde et il paralyse notre réaction salutaire de rejet. L'étape suivante, c'est que nous encourageons ce désir illégitime. Nous y revenons alors même qu'il commençait à perdre de sa force. Nous y prenons un certain plaisir. Et toutes ces étapes peuvent nous conduire au péché, c'est-à-dire à commettre un acte contraire à la volonté de Dieu. Et le péché, parvenu à son plein développement, conduit à la mort, la séparation d'avec Dieu. Voilà cet enchaînement qui peut nous conduire à cette situation dramatique. Alors, heureusement, Jacques a encore d'autres choses à nous dire, des choses qui nous donnent un espoir. Au verset 16, Jacques met en garde ses lecteurs contre une tromperie, sans préciser ce qui ou celui qui pourrait être la source ou l'initiateur de cette tromperie. Puis, au verset 17, il fait une affirmation forte concernant Dieu qui semble être le message nécessaire pour contrer cette tromperie. Alors, est-ce que vous savez ce à quoi Jacques fait allusion ? Est-ce que cette tromperie vous rappelle un événement historique qui est à la racine du péché? C'est pas une question rhétorique, vous pouvez répondre. Adam et Ève, exactement, merci. Vous avez deviné, à l'origine du péché, il y a la tromperie du diable dont Adam et Ève ont été les victimes dans le jardin d'Éden. Alors rappelons cette histoire. Dieu a créé Adam, le premier homme. Il l'a placé dans le jardin d'Éden, ce jardin contenait toutes sortes d'arbres fruitiers magnifiques dont Adam pouvait manger le fruit. Mais avant la création d'Ève, Dieu donne pourtant à Adam une limite à leur liberté. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Remarquons tout d'abord le nom particulier de cet arbre qui constitue l'interdit, la limite à la liberté humaine. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le plan de Dieu pour l'être humain, c'était qu'il puisse discerner ce qui est bien et mal dans le dialogue avec Dieu, et non pas de façon autonome, loin de Dieu. Manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est choisir l'autonomie pour nos décisions éthiques. Et cela représentait une rupture radicale dans la communion parfaite qui existait au commencement entre Dieu et les hommes. Et donc cette rupture, c'est ce que nous avons appelé la mort spirituelle. À la fin du chapitre 2, nous assistons à la création d'Ève, et puis nous voyons au chapitre suivant comment Adam et Ève ont été conduits à désobéir au commandement de Dieu, à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc je vous lis le début du chapitre 3 de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme: vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Ici intervient un nouveau personnage, un serpent qui parle. Le reste de la Bible l'identifie avec le diable, un ange de lumière révolté contre Dieu et dont le nom, diable, signifie le trompeur, le diviseur, le trompeur, le calomniateur. Et c'est exactement ce qu'il fait dans ce passage. Il sème la division entre Adam et Ève et Dieu. En mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève et Adam choisissent la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle. Ils trompent Ève. Vous ne mourrez absolument pas. Pourtant, la suite de l'histoire nous montre bien que la mort spirituelle a été la conséquence immédiate de la désobéissance et la mort physique, la conséquence à terme. Enfin, il calomnie Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Sous-entendu, c'est parce que Dieu craint que vous soyez comme lui, ce qui ne peut être que le meilleur pour vous, qu'il ne veut pas que vous mangez du fruit. Dieu ne veut pas le meilleur pour vous. Dieu ne vous dit pas la vérité. Donc, La racine profonde du péché, c'est la désobéissance d'Ève et d'Adam. Et cette désobéissance, elle vient du fait qu'ils ont cru au mensonge du diable plutôt qu'à la parole véridique de Dieu. Ils ont cru que Dieu ne voulait pas le meilleur pour eux et que, en désobéissant, ils auraient accès à ce que Dieu voulait les empêcher d'avoir. Ils seraient comme Dieu. Alors, maintenant que nous avons compris la tromperie initiale, quelle est, au verset 17, cette affirmation véritable de Jacques qui doit remplacer la tromperie du diable ? Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Tout d'abord, les lecteurs de Jacques sont des frères et sœurs bien-aimés. Alors, ils sont bien-aimés de Jacques, bien entendu, bien que Jacques ne les connaisse pas tous, loin de là, mais ils sont en premier lieu bien-aimés de Dieu, qui connaît chacun d'eux parfaitement, qui les a adoptés dans sa famille et qui a fait d'eux des frères et sœurs de Jacques, mais aussi frères et sœurs les uns des autres. Ensuite, Jacques parle du Père des Lumières qui réside en haut et en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Jésus avait appris à ses disciples à appeler Dieu leur Père. Dieu est le seul qui est immuable et éternel, sans l'ombre d'un changement, comme le dit Jacques. Enfin, Dieu seul vient d'en haut, comme nous voyons souvent Jésus le dire dans l'évangile de Jean, par exemple au chapitre 3, 31 ou 8, 23. Jacques nous parle bien de Dieu lorsqu'il parle du Père des Lumières. Mais pourtant, cette expression « Père de Lumière » est intrigante parce qu'elle n'apparaît qu'à cet endroit dans le Nouveau Testament. Alors, est-ce que c'est pour nous rappeler que le diable est aussi parfois appelé Lucifer, l'astre brillant, en référence à une prophétie du prophète Ésaïe concernant le roi de Babylone, où il est décrit de la manière suivante, donc Ésaïe 14, 12 à 15, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles du ciel. » Et un petit peu plus loin, « Je ressemblerai au Très-Haut. » Donc nous voyons l'orgueil démesuré de ce roi de Babylone qui est une image de ce qui s'est passé avec Lucifer. Mais nous nous souvenons que toute lumière créée tire sa gloire du Créateur éternel, le Père des Lumières, qui a dit un jour « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Alors, que nous dit Jacques sur Dieu, le Père des Lumières ? Eh bien, il nous dit « Tout bienfait, tout don parfait vient de lui. » Tout bienfait, tout don parfait vient de lui. Est-ce que vous croyez cela ce matin ? Est-ce que vous croyez que tout ce qui est bon, tout cadeau parfait nous vient de Dieu et qu'il n'y a aucun don parfait en dehors de ce qui nous vient de Dieu? Ou alors, est-ce que vous reproduisez encore et encore la crédulité d'Adam et Ève qui ont cru que Dieu voulait les empêcher d'accéder à quelque chose de meilleur, qui ont choisi de lui désobéir, qui ont choisi de déterminer par eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal, en choisissant la mort spirituelle plutôt qu'une vie éternelle dans la présence et dans l'amour de celui qui ne voulait que le meilleur pour eux. Peut-être ce matin réalisez-vous que vous faites partie de ces derniers. Et vous vous demandez quel espoir il reste pour votre vie. Heureusement, il y a encore le verset 18. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Jacques affirme que Dieu a donné la vie. Il l'a donnée à lui, Jacques, à ses lecteurs, mais aussi à tout homme et femme qui voudrait les rejoindre. Ici, la vie est à opposer à la mort spirituelle. Il s'agit de la vie éternelle, de la réconciliation avec Dieu. Cette vie nous est communiquée par celui qui est la parole de vérité. Ici, il s'agit bien sûr de Jésus, que l'apôtre Jean appelle la parole de Dieu faite homme. Et cette parole de Dieu, ce Jésus a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 14, 6. L'apôtre Jean dira aussi à ceux qui croient en Jésus, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, la lumière ou la parole a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et enfin, cette vie donnée par Dieu au travers de Jésus-Christ nous permet d'être de nouvelles créatures, les premiers d'une nouvelle création. Et c'est quelque chose que l'apôtre Paul dira également dans son épître aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, si nous essayons de résumer ce verset 18, eh bien, nous pourrions dire ceci. Ceux qui réalisent leur état de séparation d'avec Dieu, leur mort spirituelle, eh bien, Dieu a un plan de secours pour eux. Il veut leur donner la vie, la réconciliation avec lui. Et cette vie nous est communiquée en croyant en Jésus, la parole de vérité, la parole éternelle de Dieu faite homme. Et en choisissant de le suivre, de suivre Jésus pour le reste de notre vie. Alors, nous devenons de nouvelles créatures, nous recevons le droit d'être des enfants adoptifs de Dieu et plus rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, terminons par quelque chose de très concret. Comment vaincre la tentation aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, il me semble que la première condition pour vaincre la tentation, c'est de réaliser profondément que Dieu est bon, qu'il est saint et que tout bienfait, tout don parfait nous vient de lui. Il faut nous détourner radicalement du mensonge que le diable essaie encore de nous faire croire aujourd'hui. Il veut nous faire croire qu'il existe un chemin meilleur que celui que Dieu a prévu pour nous, que nous pouvons, par nos propres moyens, déterminer ce qui est bon ou mauvais pour nous. Eh bien, si nous croyons cela, nous serons à jamais séparés de Dieu et à jamais contrôlés par nos désirs qui nous conduiront à choisir des moyens destructeurs pour les assouvir. Ensuite, si nous croyons que Dieu est bon, qu'il est celui qui nous donne les seuls dons parfaits, eh bien, nous devons accepter que ses plans pour nous ne sont pas toujours conformes à la voie la plus facile pour nous, car il a en vue des objectifs plus élevés que notre confort ou notre satisfaction immédiate. Nous devons accepter la possibilité que Dieu permet des épreuves dans notre vie et qu'elles peuvent représenter une opportunité de grandir dans notre foi, notre patience en lui. Donc je vous encourage à embrasser l'épreuve plutôt que de râler, de renâcler intérieurement. Puis, lorsque survient la tentation, nous devons nous souvenir des étapes qui conduisent au péché et interrompre ce chemin funeste avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons identifier les pensées qui consistent à rechercher des moyens pour échapper à l'épreuve ou à satisfaire nos désirs d'une façon qui ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Nous devons nous souvenir à ce moment-là que tout bienfait, tout don parfait nous vienne d'en haut. Ensuite, nous devons remplir nos esprits de la vérité qui vient d'en haut. Le combat se joue au niveau de nos pensées. Et c'est là que nous devons le gagner. Donc n'encourageons pas le désir malsain, mais tournons nos pensées vers ce qui est le meilleur. Et c'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Philippiens 4, 8. Et enfin, sachons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons été intégrés à la famille de Dieu. Nous avons des frères et sœurs en Christ. Nous pouvons confier nos luttes à un frère ou une sœur de confiance, sachant que lui aussi ou elle aussi est un pécheur gracié et que ensemble nous pouvons prier le Père des Lumières qui nous donne la victoire dans la tentation. Et il le fera. Il le fera selon sa promesse. Par exemple, dans Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Dieu nous accordera la victoire. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour ton amour immense pour nous. Merci Seigneur parce que tout don parfait nous vient de toi. Et que rien de véritablement bon ne nous vient en dehors de toi. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons cherché à trouver nos propres solutions pour satisfaire nos désirs ou pour sortir de situations d'épreuve. Pardon pour toutes les fois où nous avons gobé les mensonges du diable. Seigneur, je te prie vraiment que dorénavant, nous sachions repérer ces mensonges. Nous sachions détourner nos pensées de telles tentations. Nous sachions les orienter vers tout ce qui est bon, digne et honorable, comme nous encourage l'apôtre Paul. Seigneur, je te prie que chacun de nous puisse connaître la victoire sur la tentation, afin de mener une vie qui va de progrès en progrès et qui te glorifie, toi notre Créateur, toi notre Sauveur, et toi qui nous aimes et qui désires passer l'éternité avec nous. Amen.